Comme tous les lundis, nous aurons le plaisir de retrouver notre ami Daniel Haber, bien sûr, dans ses conversations qu'il a de manière hebdomadaire avec Blaise van der Linden. Alors, la question que Blaise lui a posée ce matin, c'est: l'Iran a-t-elle vraiment gagné la guerre? Eh bien, tentative de réponse avec Daniel Haber, notre géopolitologue maison, en dehors d'Isaac Franco, bien sûr. Et donc, voici son analyse au micro de Blaise van der Linden. Juste après le générique, bien sûr.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on va évidemment revenir sur l'accord qui a été signé, ou en qui a été conclu entre l'Iran et les États-Unis, entre la République islamique d'Iran et les États-Unis. Alors ça s'est un peu chauffé hein, ce week-end dans le détroit d'Ormuz, et on entend sur les termes de cet accord que l'Iran aurait potentiellement gagné la guerre. C'est une grande question qu'on se pose. Quel est votre avis par rapport à cela?
Alors, vous avez raison, le mémorandum a été signé, il a été même signé à Versailles, par Trump seulement. Bon, toute cette histoire du mémorandum, on va y revenir, elle est un peu du grand théâtre. Mais la vraie question, c'est: est-ce que l'Iran a vraiment gagné la guerre? Parce que, comme les négociations commencent, si c'est l'Iran qui a gagné, la paix va se faire, ou le traité d'accord, les compromis vont se faire aux conditions de l'Iran. Si elle l'a pas gagné, ça sera un peu plus difficile. Donc c'est la bonne question. Trois choses. La première, c'est que un mémorandum, c'est pas un traité, ça a aucune valeur juridique. C'est un bout de papier sur lequel chacun, les deux parties, dit bah, voilà un petit peu sur quoi on s'est mis d'accord pour négocier. Et pas plus. Donc dire que l'Iran a gagné, c'est déjà prendre de l'avance sur la fin de la négociation. Autrement dit, faut attendre la fin des négociations pour savoir qui a vraiment gagné. Et donc, on ne le sait pas encore. La deuxième, c'est ce MOU, ce Memorandum of Understanding, qui s'appelle Islamabad, signé parce qu'il a été vraiment conçu, non pas signé, mais conçu à Islamabad, au Pakistan, avec un homme très important qui est le chef de l'armée pakistanaise, Munir, qui est à l'oreille des Chinois, à l'oreille des Iraniens et l'oreille des Américains. C'est lui qui a joué un très grand rôle. Ce cadre, lui, il est solide. C'est donc, il va guider un peu les négociations. Et alors, si on regarde, avant d'aller dans le fond, si on regarde les commentaires qui ont été faits depuis qu'il est signé, une dizaine de jours, ils se répartissent en deux groupes auxquels j'ajouterai un troisième groupe. Le premier groupe dit, comme vous l'avez dit, l'Iran a gagné la guerre. Et non seulement il a gagné la guerre, mais l'Amérique a été humiliée. Trump lui-même a été humilié. Et les Iraniens ont été trahis. On entend le mot de trahison. Ceux qui disent ça, très franchement, c'est les Israéliens. Le dernier sondage, 90% des Israéliens disent l'Iran a gagné, 80% des Israéliens disent Trump nous a trahis, mais ils sont plus que 48% à dire faut rompre avec les Américains. Évidemment, faut pas rompre avec les Américains, en tout cas pas tout de suite, parce qu'on a encore, et pour quelques années, besoin d'eux. Ça, au fond, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est ceux qui disent bravo Trump, vous avez été un homme d'État parce que vous avez compris que vous étiez dans une impasse et que c'était soit quitte, soit double, et que doubler, d'abord, c'était pas possible. Juridiquement, parce que si on veut faire la guerre, si on veut mettre des troupes au sol, il faut passer devant le Congrès. Enfin, tout ça, quelques semaines, quelques mois d'une élection majeure pour Trump, tout ça n'a pas de sens. Il pouvait pas le faire. D'autant que les plans d'attaque proposés par l'état-major américain pour, par exemple, prendre par la force le détroit d'Ormuz, impliquaient des pertes humaines inacceptable aujourd'hui pour un président américain, même un ou deux, et là il y aurait eu beaucoup plus, et parce qu'on aurait eu face à des des répliques dissuasives de l'Iran. Vous faisiez mention d'escarmouches dans le détroit. Dès que les Américains réagissent, immédiatement les Iraniens surréagissent. Alors, je vous rassure, c'est pas ce qui s'est passé ce week-end qui va remettre en question la négociation, mais ça montre que les Iraniens sont pas prêts à se laisser faire. Et donc, c'est sur cette base-là que finalement, quand il est arrivé au G7, il a été acclamé. Par les Européens, par les Canadiens, par les Britanniques, par les Japonais, ils ont dit, voilà, tu as, au fond, il a sauvé la crise mondiale, l'économie mondiale. C'est ça qu'on lui a salué. Et puis, je dirais, dans le monde, grande majorité des gens pensent que il a sauvé les vacances de tout le monde en libérant le pétrole. Donc, si vous voulez, c'est très contrasté. Alors, il y a un troisième groupe, c'est ceux des, effectivement, des analystes qui font de la géopolitique comme moi, qui ont une position un peu différente.
Ouais, justement, Daniel, hein, les géopoliticiens, on les voit hein, se succéder à tour de rôle sur les plateaux télé ou en radio. Vous en faites partie. On analyse toutes les semaines. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu compliqué de se sortir de ce tambour, de cette machine à laver dans laquelle on est. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les géopoliticiens?
Alors, je vais vous dire ce qu'ils en pensent, mais c'est vrai qu'ils sont pas très écoutés parce qu'au fond, ils sortent du schéma blanc ou noir et ils introduisent de la complexité, de la nuance et donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à expliquer. Qu'est-ce que disent les géopoliticiens? Ils disent un, prudence, deux, regardons les faits et trois, réfléchissons. Alors, c'est quoi la prudence? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a même pas commencé vraiment les négociations, parce que la première phase des négociations, c'est le détroit d'Ormuz, et les Iraniens, ils ont 30 jours depuis le 18 avril là, pour le faire. Donc, il faut attendre mi-juillet pour savoir s'il sera libéré, le détroit d'Ormuz. Il l'est déjà. De facto, vous avez des quantités de tous les conteneurs, des porte-conteneurs iraniens chargés de pétrole, ils sortent. Ben les vraquiers iraniens, ils sortent, et d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder le prix du pétrole, il est revenu à celui d'avant la guerre. Il y a du pétrole. On ne manque pas, et tout le monde découvre qu'il n'y a jamais eu de grand risque de pénurie, du moins à court terme. Donc, donc prudence sur l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi il est fait. Les trois thèmes de la négociation, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz, c'est la fin du programme nucléaire, et c'est la libération des sanctions. Et donc la négociation, c'est de mettre en face ces trois. Pour l'instant, ils sont déconnectés, mais il est clair que jamais les Américains vont donner beaucoup d'argent aux Iraniens s'ils ouvrent pas le détroit et s'ils mettent pas fin, au moins officiellement, à leur programme nucléaire. Donc, il faut attendre. C'est ça que j'appelle la prudence. Sur les faits, l'Iran, quand on dit qu'elle a gagné la guerre, je veux bien, mais elle a subi des dommages considérables. Enfin, je veux dire, immense, hein. En fait, la décapitation des leaders, y compris d'Ali Khamenei, dès les premières heures de l'attaque le 28 février, a entraîné un changement de régime. On parlait beaucoup de changement de régime. Il a eu lieu. On n'a plus de république islamique avec au sommet la plus haute autorité religieuse et juridique. On a maintenant un carteron de généraux, une dictature militaire dont on a l'habitude. Alors, est-ce qu'ils sont idéologisés? Est-ce qu'ils sont islamisés? Sûrement un peu. Ils le sont tous là-bas. Mais ils ont aussi d'autres considérations. Et donc, voilà. Sur le plan du programme nucléaire, il est retardé de plusieurs années. Donc la négociation, elle n'est pas urgente, sauf ces 440 kilos qui se baladent, qui sont une partie est enfouie. Donc ça, on y verra plus clair tout à l'heure. Quant à tous les proxys iraniens, dont on dit qu'il faudrait que l'Iran arrête de les financer, d'accord, ils continuent de les financer, mais ils sont tous mourants, en tout cas très mal en point. Alors c'est vrai qu'ils ont une capacité de rebond, c'est vrai que Israël se préoccupe beaucoup de ça, qu'il voit bien que on n'arrive pas à les éradiquer, c'est pas possible, ils vont toujours repousser, mais enfin ils n'ont plus de capacité de nuisance comme ils l'avaient avant. Et donc là aussi, sur le plan des faits, l'Iran a perdu au fond tout son axe de ce qu'il appelait l'axe de la résistance et que nous on appelait l'axe de la malédiction. Israël a rétabli complètement sa puissance militaire au point qu'un leader comme Erdogan n'arrête pas de dire Israël nous menace. Israël est la grande menace sur tout le Moyen-Orient. Il amplifie, si vous voulez, par son discours absurde, la force militaire d'Israël. Mais ce qui prouve qu'après le 7 octobre, où Israël était à genoux quand même, hein, choqué, aujourd'hui tout a été rétabli au point qu'elle n'a jamais été aussi puissante, cette force militaire israélienne. Elle fait peur à tous ceux à qui il faut faire peur. Trump, finalement, a montré qu'il était capable de faire des choses. Maduro, l'Iran, il n'a pas eu peur de les attaquer. Donc, il peut vendre assez bien à son électorat ce qu'il a obtenu. Tout le monde étant très très content de voir le prix de l'essence à la pompe baisser, c'est ce qu'il cherche. Il peut considérer qu'il n'a pas trop perdu. Il n'a pas perdu beaucoup d'hommes. Il y a eu pas mal de destructions, mais bon, ça fait partie de la guerre. Les pays du Golfe ont été attaqués par l'Iran alors qu'ils cherchaient à des compromis, donc ils vont rester du côté occidental. Et quant aux trois grandes puissances, la Russie et la Chine et la puissance régionale turque, ils sont restés un peu silencieux et personne ne s'est porté vraiment au secours de l'Iran de façon flagrante. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que veut faire Trump aujourd'hui. Et je le dis d'une phrase parce que je pense qu'on est pris par le temps. En promettant aux gardiens de la Révolution une manne financière énorme, c'est-à-dire la libération du pétrole. Et il a commencé tout de suite en disant hey, « Votre pétrole, vous pouvez le vendre à qui vous voulez pendant 60 jours. Et puis si vous voulez après, on continuera, si vous êtes raisonnable. » Et en promettant de dégeler les 100 milliards qui appartiennent à l'Iran mais qui sont bloqués dans des banques, il fait miroiter une énorme manne financière aux gardiens de la Révolution. Or, ceux-ci ont été quand même ébranlés par tout ce qui s'est passé. Ils sont en mode survie quand même. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'il peut pas progressivement arriver un moment où les Iraniens vont se dire, voilà, ça fait 47 ans qu'on met tout le paquet sur l'agression extérieure, la bombe atomique, les proxys, ça n'a rien donné, tout a été détruit, etc. Là, on nous promet beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut pas essayer de l'utiliser pour nous? Pour calmer le peuple, parce que finalement le peuple il est surtout en colère pour des raisons économiques plus que pour des raisons religieuses. Et voilà le pari qui est fait par Trump, et on peut pas dire que c'est un pari ridicule. Et donc on va attendre les fins de négociation pour savoir où on va.
Ouais. Et évidemment, on aura l'occasion de revenir hein, sur ces négociations dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup, Daniel Hébert, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine, au revoir.